Voilà, c'est toujours compliqué une conférence juste après le repas, parce que c'est le repas. Voilà. Alors, merci à tous d'être venus. Nous allons faire une petite présentation de cet objet-là, qui fait beaucoup parler et qui est très important. Une anthologie dirigée par Serge Lehmann, Retour sur l'horizon, dans la collection Lune d'encre, aux éditions de Noël. Et il y a l'éditeur qui est Veille, juste ici. Exactement. Donc, messieurs, dames, il est là. Voilà. Pareil que vous êtes payés au rendement médiatique. Exactement. Alors, autour de cette table, Jérôme Noirez, juste à côté. Donc, le diapason des mots et des misères, grand prix de l'imaginaire hier soir dans la collection jeunesse. On peut l'applaudir.
Ah, mais, je dois dire, c'était hier, hein, parce que depuis, il a strictement rien fait. Hein, je veux dire.
Si, il a peut-être fait des trucs hier soir. Hein, là, non, le monsieur.
Ah, c'est moi, ouais. Ah, non, parce que le son n'arrive pas là et j'ai cherché le mec qui était derrière.
Juste à côté de lui, Catherine Dufour, Outrage et Rébellion, Le goût de l'immortalité, pour citer deux de ses romans, qui n'a rien gagné cette année. Voilà. Il n'a rien gagné non plus cette année. C'est monsieur Curval. Alors, Le cycle de l'Europe, Congo Pantin, Voyage à l'envers, Lothar Blues. Voilà, il est là. On a le droit de l'applaudir aussi, c'est un. J'adore, on va tout le temps applaudir, on va faire une conférence juste d'applaudissements. Xavier Mauméjean qui est au milieu, voilà. On l'a déjà applaudi, mais voilà. Lily Pucia, nominée au Grand Prix de l'Imaginaire, et il n'a rien eu. Fabrice Collin qui n'a rien eu non plus, mais qui a fait La fin du monde, Le maître des dragons, La saga Mendelssohn, et La brigade chimérique, il y a une expo juste à côté, c'est une fort bonne BD, vous avez le droit de l'applaudir aussi. Serge Lehmann, l'anthologiste.
Il y en a qui sont faillots quand même.
Et Jean-Claude Duniac, qui est juste là, qui n'a rien gagné non plus. Mais bon, il était dans le jury en même temps. Et le monsieur qui apporte de l'eau. Alors, cette anthologie a la particularité d'avoir fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu beaucoup d'interviews. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire en deux temps. On va faire une petite présentation de chacun et de chacune des nouvelles. On va poser quelques questions à Serge Lehmann parce qu'on est bien obligé. Et après, si vous voulez, on fera un grand temps de questions-réponses. Enfin, on est bien obligé, mais parce que c'est l'anthologie, c'est que c'est intéressant. Mais et on fera un grand temps de questions-réponses. Ils boivent, et puis on va pouvoir y aller. On va commencer par toi, Serge. Peut-être d'abord, pour recadrer un petit peu le projet et l'idée, quelle est l'idée de départ de cette anthologie? Qu'avais-tu envie de faire?
C'est pas vraiment moi qui avais envie au départ. Le fait de voir approcher les 10 ans, c'était d'ailleurs pas un anniversaire véritable, mais le fait de se souvenir qu'il y a 10 ans, Escale sur l'horizon, la première grosse anthologie au fleuve noir, avait contribué à relancer ou à entretenir l'élan qu'avait fait sortir Genèse, l'anthologie d'Ayerdal chez Gélu. Enfin bref, à un moment ou à un autre, ce qui s'était passé au fleuve noir à la fin des années 90 a suffisamment marqué pour que 10 ans plus tard, on se dise où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Bon. Et il y a eu plusieurs conversations avec des auteurs qui, bizarrement, ensuite n'ont pas été au sommaire. Mais Alain Damasio m'avait dit on aimerait réavoir un espace comme celui-là, comme celui d'Escale sur l'horizon, pour faire le point sur qui écrit aujourd'hui, qui écrit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une ou deux jeunes pousses sur lesquelles il faudrait attirer l'attention, etc. Et puis, je trouvais le projet agréable, mais je ne voyais pas non plus qui pouvait le publier comme ça spontanément, parce que les entours du fleuve noir avaient cette particularité qu'elles avaient été conçues en dehors de toute pression. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je disais que c'était un énorme numéro de revue, ces anthologies, plutôt qu'une espèce de travail, de sélection littéraire. Il s'agissait plutôt d'envoyer une image très très positive de l'ASF en disant « Regardez, voilà, nous aussi on fait des gros livres ». des nouvelles très longues. Enfin, c'était une époque de reconstruction, donc il y avait une espèce d'euphorie à avoir des instruments éditoriaux dont on avait perdu l'habitude. Et tout ça n'est plus tellement dans l'esprit de l'époque aujourd'hui, où finalement ces questions ne se posent plus. Et puis, au moment où on a préparé avec Gilles Dumay le haut lieu chez De Noël pour Lune d'encre, on a eu cette conversation. J'ai dit, il y a des auteurs qui disent que voilà, on est. Et il m'a dit, mais bon, c'est les 10 ans de Lune d'encre, faisons cette anthologie pour les 10 ans. Voilà. Et donc, ça c'est. À ce moment-là, il y avait une adéquation absolument parfaite entre l'idée et la structure éditoriale. Quant à l'appel à texte, j'ai pas non plus fait comme j'avais fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, l'anto était ce qu'on appelle fermé ou semi-fermé. C'est-à-dire que j'avais contacté les auteurs individuellement en leur disant, je prépare une anthologie, fais-moi un texte. Bon, voilà. Et je m'étais adressé à 20, 25, 30 auteurs. Et puis j'avais trié dans ce lot-là. Bon. Et là, non, c'était intéressant, je trouvais, de faire savoir partout qu'il y avait une anthologie en cours de construction et que tout le monde pouvait tenter sa chance, y compris un total débutant. Et j'ai reçu 240 nouvelles de 170 auteurs. C'est d'ailleurs assez marrant de voir à quel point les gens ne respectent pas les consignes. On avait dit 2 nouvelles maximum, il y a des gens qui m'ont envoyé 5 nouvelles. Bon. Il y a des gens qui m'ont envoyé des nouvelles écrites à la main. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais j'ai quand même tout lu. Et puis au bout d'une première lecture, je me suis retrouvé avec un paquet de 30 manuscrits, en gros, qui était 2 fois ce que je pouvais publier. Donc à ce moment-là, la question n'était plus tellement quels sont les textes qui sont publiables, c'est plutôt quel livre je veux faire. Et c'est là que le processus, à mon avis, est le plus difficile à décrire. C'est-à-dire que j'avais différentes contraintes en tête, personnelles, enfin des choses que je voulais faire passer. Et finalement, je ne me suis jamais soucié de me dire on prolonge ou on reprend la tradition inaugurée par la série des escales. Je voulais vraiment faire une anthologie pour aujourd'hui. C'est pas une anthologie démocratique en ce sens où je ne me suis pas dit qu'il faut que toutes les tendances de la science-fiction française soient représentées. Enfin, il n'y avait aucune chose de cet ordre. J'ai vraiment fait un livre dans lequel... La seule vraie contrainte, c'était de me dire si je tombais dessus en librairie, que je l'achète et que je le lise, est-ce que ça me plairait, voilà. J'ai pris les nouvelles qui m'ont le plus frappé, après en essayant d'avoir un discours interne qui a une certaine cohérence sur la science-fiction aujourd'hui. Donc l'anthologie, elle regroupe les textes en gros en 2 parties. La première partie de l'anto est assez classique, les nouvelles sont un peu genre SF hardcore, on va dire, avec des nuances ici et là. Et la deuxième partie montre une échappée qui est assez singulière, qui est à mon avis très française, très spécifiquement française. Sur la puissance de l'art et de la littérature comme élément de science-fiction, comme élément du paysage de la science-fiction. Et je pense que l'anto envoie une image de la SF aujourd'hui qui est alors peut-être partielle, peut-être fragmentaire, peut-être pas complète, mais qui a un sens. Elle a un sens et elle est en prise sur les débats qui, à mon avis, sont les débats les plus importants en ce moment, qui sont le rapport science, enfin, SF-littérature. Voilà. Il y a 10 ans, le rapport était peut-être SF-science. Aujourd'hui, à mon avis, cette question étant réglée, le point de rencontre entre science-fiction et littérature est le chantier le plus important. Voilà. Donc l'anto, elle parle de ça.
Alors peut-être pour qu'on se rende bien compte de la somme de travail, combien de temps tu as mis pour faire l'anthologie, sélection des textes, retravail ?
Pendant 2 mois, je n'ai fait que ça, que lire. Mais c'est pas un tel exploit. C'est-à-dire, j'avais calculé que ça représentait 1 ou 2 fleuves noirs par jour. Quoi. C'est-à-dire... quand on lit 400 pages par jour, c'est au bout d'un moment, on les lit, quoi. Puis voilà, c'est tout. Et puis, ce serait mentir que de dire que j'ai tout lu intégralement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des nouvelles où on se sent tellement amateur, enfin tellement pas maîtrisé, que dès 2 ou 3 pages, on se dit, OK, on survole le reste pour voir si on ne s'est pas trompé. Mais quand c'est un métier, donc lire, écrire, c'est un métier, au bout d'un moment, on sent quand même. On peut se tromper, j'ai peut-être raté un chef-d'œuvre, c'est très possible. Mais bon, il faut aussi fonctionner de manière réaliste. J'avais effectivement... 240 textes en moyenne, ça doit faire 8000 pages à lire en 2 mois, donc je n'ai fait que ça, mais j'ai tout lu.
Au final, l'entour ressemble à ton idée de départ ou tu as eu des vraies surprises ?
Non, j'avais pas d'idée de départ, vraiment. Comme le projet était placé sous le signe ou sous le souvenir d'Escale sur l'horizon, spontanément, je me suis dit... ça va être une anto comme on avait fait il y a 10 ans, pleine de sense of wonder, pleine de choses comme ça. D'autant plus que dans les auteurs qui m'avaient suggéré de refaire cette anto, il y avait Pierre Bordage et Laurent Genefort, qui sont eux des auteurs hardcore, enfin très... Voilà, ils envoient ce message-là quand ils écrivent. Et finalement, l'entouf... Mais j'avais pas d'idée préconçue. Je me disais, puisque j'ai ouvert, je sais pas ce que je vais recevoir. Et non, c'est plutôt une surprise, cette anthologie. Je la trouve drôle, pour l'essentiel. C'est la première chose que je retiens. Je la trouve drôle. Les textes sont souvent drôles. C'est peut-être la politesse du désespoir, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Et je la trouve de très, très bonne tenue littéraire. Je trouve que les textes sont vraiment bien écrits, quoi. Voilà.
Alors parlons des textes maintenant, on va faire un petit tour de table pour que chacun présente un peu sa nouvelle. Jean-Claude, est-ce que tu peux nous résumer, nous donner les grandes lignes de ta nouvelle dans l'anthologie ?
Résumer la nouvelle, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Ce que je peux essayer d'expliquer, c'est la réaction que j'ai eue à l'appel à texte de Serge. L'appel à texte de Serge, je l'ai découvert, comme beaucoup de gens, via les forums. C'est-à-dire que j'ai vu arriver le projet, qui était un projet très construit, qui expliquait ce qui se passait. Enfin bon, c'était pro, quoi, c'était carré. Et ma première réaction, ça a été de me dire, puisque le projet Escale, j'avais participé au premier sommaire d'Escale et je m'étais occupé de l'Escale d'après, ça a été de me dire, réfléchissons à ce qu'est l'ASF maintenant aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais moi, en tant qu'auteur, revenir aux fondamentaux. Enfin, je me suis efforcé de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, je me suis donné comme règle d'être pur SF, d'être vraiment au centre de ce que je considère du genre, des choses, de mon idée des choses. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de me lancer dans quelque chose que je ne sais pas faire, c'est-à-dire écrire une novella, qui est peut-être, en tant que lecteur, le genre le plus abouti pour moi en SF. Je venais de réaliser une anthologie de Delaney chez Bragelonne, où j'avais publié un certain nombre de novellas, et Delaney en novella, c'est remarquable. J'avais travaillé dessus, j'avais lu La vie anglaise et le continent de Jeanne Debats, qui est vraiment un texte remarquable. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose que je ne connais pas, un territoire inconnu, et je vais travailler sur cette longueur, et ça va m'obliger à penser à un texte, à tout un tas de... je dirais, de dimensions différentes. Et l'obligation qui s'est dégagée de ce texte, ça a été quelque chose, d'ailleurs, que peu de gens ont vu, mais qui est véritablement au cœur du texte. J'ai un texte sur la solitude et sur le fait que l'une des tendances qui me semble être le cas dans le futur quasi immédiat, c'est le fait que les gens ont chacun leur propre univers et ne communiquent plus avec celui de l'autre. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi qui aime aller au contact, qui aime faire un poutou, qui aime aller m'installer chez les gens en disant « c'est quoi chez toi ?», je vois un univers de gens enfermés dans leur bulle. Et j'ai donc écrit un texte où la totalité des personnages, et bien tous, depuis la secrétaire, le personnage secondaire, etc., ils sont tous seuls, ils n'ont jamais un collègue, ils ne sont qu'une seule personne représentante de ce qu'ils sont, y compris l'histoire d'amour, qui est une histoire de gens, à la limite, qui coexistent, mais qui ne savent pas se parler, y compris le rapport... ce qu'on peut appeler d'amitié entre deux des personnages. Et c'en est arrivé à un stade tel que je me le suis dédicacé à moi-même, ce texte, parce que je n'avais personne à l'écrire. Et ça a été le texte le plus terrifiant à écrire de ma vie, parce que j'ai été obligé de m'immerger pendant 60 pages dans un texte où j'étais volontairement tout seul en état de non-communication. C'est à peu près comme faire de la plongée en apnée en descendant très profond et en remontant. C'est épouvantable.
On va poser la même question à Fabrice Collin, qui en plus ouvre l'anthologie. Alors, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ta nouvelle, mais en fait, c'est pas ta nouvelle.
Okay. Les grandes lignes... ça marche pas. Les grandes lignes... Alors, au départ, je voulais faire une nouvelle avec... je voulais qu'il y ait fatwa dans le titre. Je voulais qu'il y ait quelqu'un qui mange du guacamole et que ça se passe avec un mineur marxiste dans un grand hôtel. Et j'ai demandé un peu à Serge ce qui avait déjà été fait. Je me suis aperçu que tout ce spectre avait déjà été balayé. Et donc, du coup, j'ai commencé à lui écrire une lettre pour lui expliquer que je n'allais pas faire la nouvelle en question. Ce dont en fait il se contrefichait parce qu'il attendait pas spécialement de texte de ma part, mais c'était important que je lui explique. Et puis voilà, je me suis mis dans la merde moi-même un petit peu. Non, c'est compliqué. Je peux pas vraiment expliquer le projet. Il y a deux textes avec deux auteurs différents qui sont en fait quand même moi, enfin je crois. Et donc c'est un texte dickien, comme de Philippe K. Dick, que j'ai jamais lu, mais on me dit tellement que j'écris toujours des trucs qui ressemblent à Philippe K. Dick que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose par rapport à ça, quoi.
On passe à ton voisin. Oui, vas-y. Non, juste,
on peut simplement dire que l'anthologie commence par la nouvelle lettre de Fabrice, et le début, c'est donc mon très cher Serge. cette courte lettre pour te prévenir que je ne répondrai pas en définitive à ton appel à texte. Voilà, ça commence comme ça. Et c'est une vraie nouvelle de science-fiction derrière.
C'est bien comme début d'anto.
Oui, c'est pense. Bien, c'est oui. Parfait. Pour l'ouvrir, Xavier, pareil pour toi.
La nouvelle, c'est la nomination d'un homoclé d'or dans un hôtel à son poste sur un comptoir d'hôtel, mais le comptoir est infini puisque l'hôtel, l'Hilbert Hôtel, est à dimension infinie. Mais en fait, bon, raconter la nouvelle, c'est pas très intéressant. Ce qui est marrant, c'est la genèse, parce que j'avais un prof de logique à la fac qui avait travaillé pour le Pentagone dans ce qu'on appelle la théorie des jeux. C'est quelqu'un peut-être que Gérard connaît, Saint-Sernin, qui est un théoricien de tout ça. Il avait notamment interviewé les deux jeunes qui avaient tué dans un de leurs camarades et qui étaient repris par Hitchcock dans La Corde, toujours dans la théorie des jeux. Et il avait un jour en cours donné l'exemple d'Hilbert, du mathématicien Hilbert, qui est la coexistence de différents infinis. Par exemple, la série des nombres est une série infinie, la série des nombres pairs est une série infinie, la série des nombres impairs est aussi infinie, donc on peut emboîter comme ça. Donc j'ai voulu prendre concrètement, terre à terre, l'exemple d'Hilbert lui-même. Et alors bien sûr, un univers à contenance infinie, à possibilité infinie, ça fait penser à Borges, mais j'y ai pas pensé. Bon, je me suis dit tout de suite, j'allais avoir Borges, hein, un lieu infini, on allait en parler, mais c'est pas ça du tout. Il y avait cet exemple purement logique. D'ailleurs, les héros de la nouvelle ont tous des noms de mathématiciens contemporains d'Hilbert et parfois opposés à Hilbert. Mais surtout, la référence qui n'a pas été vue, je suis content parce que c'est une référence personnelle, c'est Dino Buzzati, le désert des Tartares. Et je voulais que mon concierge, enfin mon réceptionniste, voilà, attende son action comme peut le faire le héros de Buzzati dans son fort. Voilà.
D'accord, très bien. Passe à ton voisin. Alors pareil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre nouvelle ?
Bon, au début, c'est au retour d'un voyage de Vienne, à Vienne, où j'avais vu quelque chose d'assez extraordinaire. C'était une utopie qui avait été construite à l'époque où Vienne, vers 1920, est devenue communiste, était devenue une mairie communiste. Et donc, ils avaient constitué un début de ring, parce que Vienne se déroule autour d'un boulevard circulaire. Enfin, est enclavé à l'intérieur d'un boulevard circulaire. Et là, ils avaient fait à l'extérieur de ce boulevard un début de ring marxiste. Et en même temps, j'ai développé, vis-à-vis de la fantaisie, des phéromones particulières qui m'ont dit que ça serait intéressant de mélanger à la fois le marxisme et la fantaisie. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait un moyen de marier la mythologie allemande avec le nazisme et avec le communisme, et d'essayer de faire une espèce de chose compacte et de créer une société qui se développerait à l'intérieur de ce système. Bon, ce qui permet d'une part de pouvoir explorer le communisme sous un angle assez particulier et par ailleurs de développer des choses assez pittoresques comme des combats dans une arène avec des gens qui sont l'un pourvu d'un marteau et l'autre d'une faucille, donc ce qui permet quand même de s'amuser beaucoup et de pouvoir développer à l'infini cette histoire. Et ce que je voulais dire surtout, et je ne sais pas si on reviendra par la suite, donc c'est pour ça que je profite de l'occasion pour le dire, c'est que ce qui est intéressant dans l'expérience de cette anthologie, c'est qu'elle répond complètement un peu à celle que j'ai faite aussi à 10 ans d'écart. C'est-à-dire que j'ai fait un premier recueil de nouvelles d'auteurs inconnus qui s'appelait Futur au présent, dans lequel effectivement j'avais privilégié le Sossenwander à une époque où la science-fiction était en plein essor, et vraiment ça m'a permis de faire découvrir un grand nombre d'auteurs à l'époque. J'avais lu à l'époque près de 120 nouvelles. Et puis des années plus tard, 10 ans plus tard pratiquement, exactement comme Serge, Elisabeth Gilles m'a demandé de refaire une deuxième anthologie parce que à cette époque-là, c'était vraiment le marasme total. Plus aucun auteur ne pouvait publier, il n'y avait plus de revues, il n'y avait plus de fanzines, il n'y avait absolument plus rien. Et donc j'avais créé cette nouvelle anthologie et là j'avais reçu 600 nouvelles. Donc ça a été aussi un long travail d'élaboration. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, il y a une sorte d'écho dans le temps, parce que la première nouvelle était effectivement basée sur l'invention, etc. Et la deuxième anthologie était complètement basée sur l'écriture. C'est à partir de là que j'ai vu un espèce d'écho à travers le temps d'une réflexion des auteurs par rapport à ce que peut devenir, à ce que peut être la science-fiction. Et ça m'a paru vraiment une réussite en ce genre. Je ne parlerai pas de la première, mais pour la seconde, oui.
Catherine, à toi de jouer.
Tu veux que je prenne des notes à ta place? J'ai tout noté. Non, moi, j'ai plutôt parlé du texte de Jérôme, puisqu'on devait on devait faire un texte ensemble. Et Jérôme, il m'envoie un soir un chapitre, danse comme une étoile à neutrons, quoi, en me disant, allez, vas-y, maintenant, lâche-toi. Alors, je lis ça, je trouve ça magnifique, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et le lendemain, plop, deuxième chapitre, pareil. Alors, je dis, et là, plop, troisième chapitre, c'était un peu comme ces cauchemars abominables, où vous avez toujours plus de pommes à ranger. C'était absolument parfait, il n'y avait rien à changer, dès que j'essayais de corriger quelque chose, tout s'effondrait. Et donc, en fait, on a totalement renoncé. Il m'a traité de feignasse et s'est réapproprié son texte. J'avais réussi quand même à pondre un chapitre, mais malheureusement, c'était du porno hardcore et c'est pas passé du tout. Et il m'a dit que c'était strictement impubliable. Et c'est ainsi que s'est arrêté immédiatement ma vocation d'écrivain érotique. C'est la faute de Jérôme Noirez. Voilà. Et moi, quand j'ai lu l'anthologie, j'ai été absolument écrasée par la qualité des textes. Quoi. Alors bon, Noirez, déjà, c'est Dieu. Il y a Claude Zeur qui est quand même Dieu adjoint, il y a le vice-Dieu adjoint, ça doit être Xavier. Celle de Duniac et Jean-Claude est absolument excellente. Enfin, c'est... Et moi, mon texte à côté, je trouvais qu'il fait un peu poussiéreux. Alors, c'est un texte très simple, c'est les tribulations assez tristes d'un commercial. Voilà. Il vend des matériaux composites. Et globalement, ça se passe mal. Alors, il vend des sas à une centrale nucléaire et ça fuit partout. Bon. Et en fait, c'est un texte qui n'est pas du tout science-fictif. Mon but, c'était de faire un texte où on se dit à chaque fois, oh mon Dieu, heureusement qu'on nage en pleine science-fiction, c'est trop horrible. Et puis à la fin, de dire au lecteur, maintenant, ceci est tout à fait vrai, ça se passe actuellement. Voilà. Mais du coup, c'est beaucoup moins flamboyant qu'il y a un autre texte, beaucoup mieux fini dans le genre, qui est celui de Eric Holstein. C'est un texte, le mien, est à lire dans une perspective malheureusement non science-fictive. Voilà, c'était mon but.
Jérôme, à toi.
Mais j'ai plus rien à dire. elle vous a dit la vérité, oui. C'est pas du tout un texte que j'ai écrit spécifiquement pour Serge Lehmann. J'en ai écrit un spécifiquement pour lui, mais qu'il a pas lu. Non, tu l'as lu? Non, il l'a pas lu. Donc tu vois, tu l'as. Bon. tu as eu tort. C'était un très bon texte, mais oui.
T'as pas gardé le chapitre porno?
Alors, j'avais des menaces de procès de Catherine. Mais je le déclamerai un jour. Je viendrai sur scène. Et c'était dégueulasse. Hein. Il y avait...
Non.
Enfin, il y avait du fist. Moi, j'ai jamais mis de fist dans un bouquin. Ben, si. Mais c'est très bien, finalement, que Serge ait choisi ce texte, parce que ça m'a fait une plus grosse part d'avaloir. Vu que celui que j'avais proposé était beaucoup, beaucoup plus court. Et donc, en gros, le projet qu'on avait, qui était effectivement de faire de la SF avec du cul, elle est très forte, là, quand même. Il devait y avoir une partie terrestre, disons, et une partie extraterrestre. Et moi, dans ce projet, la partie extraterrestre est vraiment la partie qui me faisait chier. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. Les autres planètes, aucun intérêt. Donc j'ai conservé finalement la dimension terrestre uniquement. Et puis j'ai fait donc une espèce de road movie. C'est une romance, un road movie sentimental avec des monstres. Parce que j'aime bien les monstres. Il y a plein de monstres. Et du cul quand même un peu. J'ai conservé un peu le cul. Ah, le blop, oui.
Le bloop.
Oui, parce que l'idée de départ, c'était le bloop, que certains, je suis sûr, connaissent ici, qui est un phénomène sonore qui a eu lieu en 1997 dans l'océan Pacifique. Les sonars en place ont enregistré bloop. Enfin, je l'ai entendu, j'ai écouté l'enregistrement. On a appelé ça bloop, mais c'était beaucoup plus long, plus grave. Je ne peux pas vous le faire avec ma voix.
Voilà. On peut l'applaudir.
Oui, un bloop. Et personne n'a encore réussi à expliquer l'origine de ce son. Donc je suis parti de l'idée que c'était une chasse d'eau cosmique, en fait. Voilà. Amusez-vous bien.
Alors après ce premier tour, j'avais promis qu'on ferait une longue séance de questions, s'il y en a. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. N'hésitez pas. Ça m'arrangerait, j'ai rien préparé pour la suite. Non? Une fois, deux fois. Bon, on y reviendra. Peut-être qu'on peut parler des absents. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, simplement, c'est ça.
Ça, c'est le truc qui me brouille avec tout le monde. C'est vachement c'est bien.
Non, peut-être. Il y a des. Dans l'anthologie, il y a des petits jeunes ou des presque petits jeunes, dont le premier ou l'un des premiers textes.
Ah, les absents, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'anthologie mais pas là.
Bah oui, oui.
Je pensais à ceux qui ne sont pas dans l'anthologie.
Si on pouvait pas parler de tous les morts aussi.
Oui, d'accord, quelqu'un d'autre en parlera. Bah, ceux qui ne sont pas là. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait l'anto sur invitation, mais en faisant un appel à texte ouvert, c'était de se donner une chance de publier des gens pour la première fois ou des auteurs très 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 peu connus et qui commencent à peine à construire leur œuvre. Et c'est ce qui est arrivé. Dans l'anthologie, il y a eu une jeune femme qui s'appelle Maëva Stéphane-Buny qui publie son premier texte, qui d'ailleurs, je crois, n'avait pas spécialement l'intention de me proposer quelque chose, mais... comme elle est plus ou moins copine avec Léo Henry, Jacques Mukieli, et qu'eux ont répondu à l'appel à texte, ils l'ont poussé du coude en disant « mais vas-y, on voit ce que tu fais », ce qu'ils connaissaient déjà sa production. Et sa nouvelle, elle m'a frappé parce que c'est une nouvelle, on voit très bien de quelqu'un qui n'est pas sur le bord d'attaque de la science-fiction telle qu'elle se fait en ce moment, mais qui au contraire a réussi à créer en 20 pages une sorte d'univers intemporel assez kafkaïen d'administration qui font des processus inquisitoriaux sans raison où les gens sont accusés non pas de décrire des courriers subversifs mais d'en recevoir alors qu'ils n'ont rien demandé. Bon, et quand ils répondent aux questions qu'on leur pose, alors vous avez ouvert ce courrier, pourquoi il ne vous est pas adressé? Bon. Et pourquoi le recevez-vous? Et donc c'est des espèces de questionnements paranoïaques comme ça, de quelqu'un qui finalement trouve comme réponse à l'angoisse que ce dispositif fait naître en lui, qui retourne à sa vocation originelle, puisque c'est un artiste, c'est un graphiste, et qui se sert de ses dessins pour introduire un grain de sable comme ça dans la machinerie administrative qu'il persécute. Donc j'ai trouvé le texte finalement, bien qu'il ait un côté vraiment très kafkaïen et qu'il ne parle pas spécialement du monde dans lequel on vit, même si je pense qu'il y a des allusions politiques assez transparentes par ailleurs, j'ai bien aimé que quelqu'un m'envoie un texte comme ça, c'est-à-dire un texte qui dise oui d'accord, c'est pas dans le futur, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a même pas de technologie, mais la science-fiction, c'est l'endroit où on publie ça. Voilà. Et oui, d'accord, moi je suis d'accord pour ça. Donc j'aimais bien publier ce texte-là. Il y a un texte très expérimental, manifestement complexe à lire et à recevoir, mais moi que je trouve absolument magnifique, de Delon, qui par ailleurs est un illustrateur de très grand talent, et qui commence à écrire, il a publié deux ou trois nouvelles, je crois, dans fiction, qui est à mes yeux une des plus belles nouvelles de l'anto, parce que c'est vraiment une très bonne, très belle histoire d'amour. C'est un texte qui raconte une histoire d'amour. Alors évidemment, comme j'ai dans la petite présentation que je fais de chaque texte, en ce qui le concerne, j'ai souligné que Delon trouvait une réponse assez inhabituelle au problème actuel des auteurs de SF qui décident de continuer à parler de l'espace. Parler de l'espace aujourd'hui, je trouve que c'est un thème... C'est problématique, voilà, dans la science-fiction, c'est tout à fait licite, mais ça demande des trésors d'invention pour rester dans quelque chose d'intéressant. Et Delon fait l'inverse. Au lieu de parler de voyage dans l'espace, il s'arrange pour faire descendre ce qu'on considère comme étant l'apanage du space opéra, les créatures gigantesques, les technologies spéculatives, sur Terre, aujourd'hui, à la gare Montparnasse, en gros, bon, voilà, pendant des manifestations avec des CRS. Et je trouve le collapsus, la rencontre entre les deux esthétiques remarquable. Mais c'est, pour moi, c'est la toile de fond sur laquelle se détache une vraiment très belle histoire d'amour entre deux personnes qui quittent l'adolescence et qui se rendent compte que c'est en train de finir. Voilà, j'ai trouvé ce traitement-là. Et les gens, pour l'instant, ne lisent pas l'histoire comme une histoire d'amour, mais comme un space opéra. Alors donc, c'est, les réactions sont effectivement très déroutantes. Il y a une nouvelle d'Eric Holstein, l'un des grands maîtres du site ActuSF, qui est une nouvelle absolument parfaite de satire contemporaine sur le monde des traders, où il va jusqu'au bout du bout de la logique de la marchandisation, et le bout est très marrant et très lucide. Et puis il y a une des nouvelles qui a le suscité le plus d'admiration, pour l'instant, celle de Léo Henry. Léo Henry, c'est pareil, on ne peut plus dire que c'est un jeune auteur, il a déjà scénarisé des bandes dessinées, fait un recueil de nouvelles, mais il n'est pas encore connu du tout du grand public, et avec cette nouvelle, je pense qu'il va le devenir, et il le mérite, la nouvelle est vraiment magnifique. C'est une nouvelle qui recycle trois synopsis, en fait. Il a raconté ça dans une émission qu'on avait faite. À une époque où il était en panne d'écriture, il avait fait trois synopsis d'histoire. C'est marrant parce que quand on en parle, c'est presque angoissant. C'est trois histoires de gens qui n'arrivent pas à écrire, et alors lui-même n'arrivant pas à écrire, il a inclus ça dans un récit cadre où on est dans une espèce de société dictatoriale où tout le monde est plus ou moins obligé d'être artiste. Voilà. Et ça peut bon paraître comme ça très artificiel, voire intimidant, et en fait c'est une nouvelle absolument limpide d'un bout à l'autre sur ce que c'est que la création. Voilà. Bon, et c'est une nouvelle vraiment parfaite à mes yeux, et c'est probablement l'une des nouvelles qui pour l'instant fait le plus consensus. Donc la nouvelle d'Eric est très classique, la nouvelle de Maeva sort du courant Kafka traditionnel, la nouvelle de Delon est syncopée et inverse à peu près tous les codes de la science-fiction, la nouvelle de Léo Henry est d'un classicisme littéraire parfait, et en fait c'est à la fois très hétérogène et parfaitement à l'image de ce qu'on voulait faire dans cette anthologie, c'est-à-dire ouvrir quoi, et dire que la science-fiction est devenue d'une richesse thématique, stylistique extrême. Voilà.
On a la chance d'avoir l'éditeur dans la salle, Gilles. On va peut-être lui demander, lui aussi, comment est-ce qu'il trouve son anto. Est-ce que ça correspond à ce qu'il attendait au départ comme projet?
D'abord, avant toute chose, c'est une anto de Serge Lehmann. C'est pas du tout une anto de Gilles Dumay. Ben, je suis un peu embêté d'en parler, puisque je suis aussi au sommaire de l'anto. Moi, je l'ai... Moi, j'ai essayé de la lire comme un lecteur, et j'ai trouvé, en tant que lecteur, beaucoup de plaisir sur cette anthologie. Mais un petit peu les titres qu'on a cités, c'est-à-dire Léo Henry, ça m'a mis à genoux, j'ai trouvé ça. Serge m'avait appelé en me disant « ça y est, je tiens un chef-d'œuvre, c'est la nouvelle de Léo Henry ». Bon, je suis toujours un petit peu sceptique, donc j'ai attendu de la lire, et puis je l'ai rappelé en lui disant « oui, t'as raison, c'est un chef-d'œuvre, fais chier ». La nouvelle d'Eric Holstein, je la trouve vraiment très très forte, très drôle, et je la trouve très profonde. Je trouve qu'elle dit des choses vraiment très intéressantes sur la société d'aujourd'hui, sur la place de l'argent. Moi, j'aime beaucoup le délire fantasy marxiste de Philippe Curval, qui m'a fait hurler de rire. Et c'est vrai que pour qu'un texte me fasse rire, c'est assez difficile. Et voilà, bon, après, il y a des textes que j'aime moins, et il y a même des textes que j'aime pas, mais en tout cas, je suis très, très surpris de voir à quel point ça couvre un champ absolument immense. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un beau livre.
Alors, est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on continue ce... Fabrice Collin, pose ta question.
C'est une question à Serge Lehmann. Étant donné que, d'après mes calculs, tu as bu une bière avec 93,5% des auteurs de l'anthologie, est-ce que tu es alcoolique ou est-ce que c'était une anto fermée, en fait?
Je serai alcoolique quand on sera à 100% des auteurs. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans le public cette fois? Tout le monde a lu l'anthologie?
En fait, s'il n'y a pas de question, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui l'a lu pour le moment. Alors, moi, je voulais revenir sur la question de la place de la littérature dans la science-fiction ou inversement. Non, mais c'est très clair. Enfin, le niveau stylistique, moi, m'a bluffé. Et moi, je trouve que Maeva, toi, tu dis que c'est kafkaïen. Moi, j'y vois plutôt... C'est entre 1984 et Fahrenheit 451. C'est, C'est assez étonnant. Et Léo Henry, pour moi, c'est vraiment Italo Calvino. C'est que c'est par une nuit d'hiver un voyageur, sauf ceux qui disent qu'en fait, non, c'est du Borges. Donc les références sont, sont très élevées et à lire, c'est un vrai bonheur. Et la tienne, c'est, enfin, moi, j'ai retrouvé tout Sturgeon dans ce que j'aime énormément chez lui. C'est-à-dire que c'est à la fois très... Voilà. Donc, ouais, et après, enfin, il est évident que quand une fois qu'on lit cet anthologie et qu'on a un texte à soi dedans, on serre les fesses en disant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». C'est toujours un problème quand on est dans l'anthologie avec des gens qui écrivent aussi bien. En fait, il faut sauter son texte. Mais Fabrice m'a dit que ça lui faisait le même effet, donc finalement, il ne faut pas s'inquiéter trop.
Je peux faire moi-même un commentaire, puisque, bon, évidemment, j'ai envoyé un texte, mais c'est à partir de là que le travail commence. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté le texte que j'avais envoyé. On a accepté la version retravaillée du texte pour lequel Serge m'avait pointé tout un ensemble de choses, de directions à explorer, de choses à corriger, d'éléments, etc. Parce qu'il y avait véritablement un travail d'éditeur. Et à un moment donné, il y a aussi ce travail d'obligation de se dire... Bon, on savait que c'était une anthologie de haut niveau, donc on se prépare à bosser, mais aussi d'avoir quelqu'un qui lucidement vous dit littérairement le texte va vers là, demande ça. Et il y avait cette espèce d'exigence à la limite de Serge qui me disait écoute ton texte, c'est là qu'il va, tu te perds en ceci, tu te perds en cela, va plus droit. Et il m'a obligé d'une certaine façon à aller plus droit, je crois qu'il avait raison.
Un mot sur ça, mais ça rejoint le thème de la littérature et ça parle aussi du processus anthologique lui-même, parce que c'est quelque chose qui me fascine. Pour moi, faire une anthologie, c'est vraiment faire un livre. C'est pas rassembler 15 nouvelles hétérogènes, les empiler. Et voilà. Moi, j'ai vraiment cherché à faire un livre. Un lecteur a absolument le droit de lire les livres comme il veut. C'est-à-dire s'il veut commencer par la fin, s'il veut piocher au début, s'il veut aller aux auteurs qu'il connaît d'abord, s'il veut d'abord lire les nouvelles courtes et puis les longues, s'il veut d'abord découvrir les auteurs inconnus et ensuite ceux qu'il connaît. Enfin, chaque lecture est absolument licite. Mais il se trouve que dans le tas, il doit bien y avoir quelques lecteurs qui prennent le livre au début et qui le lisent jusqu'à la fin d'un trait. Et donc je voulais aussi que cela ait une valeur ajoutée et qu'ils aient, en plus du plaisir de chaque histoire, une espèce d'impression d'ensemble. Et donc ça rejoint ce que disait Jean-Claude sur le travail éditorial, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré d'immersion, quand je savais quels étaient les 15 textes que j'avais retenus, que j'avais l'ordre dans lequel ils allaient être lus, j'ai commencé à, c'est presque à ce moment-là une appropriation, c'est-à-dire que j'ai commencé à sentir quel livre ça allait être. Et du coup, ça a pesé sur les demandes de réécriture ou de correction. J'aurais peut-être pas demandé le même retravail exactement à Jean-Claude si sa nouvelle avait été située ailleurs, par exemple à la fin, ou si elle avait été en position inaugurale. Il y a un certain moment où je me suis mis à traiter le matériau, le manuscrit de l'ensemble, comme un livre à moi, c'est-à-dire comme un livre que j'étais en train de faire. Voilà. Et du coup, ça contribue peut-être aussi à donner, en dépit de l'hétérogénéité des textes, de donner au livre une sorte de fluidité ou d'unité, voilà, qui est peut-être une plus-value par rapport aux anthologies classiques. J'ai vraiment essayé d'en faire un livre, un vrai livre.
Et vous, les auteurs, comment est-ce qu'on travaille avec Serge Lehmann? Quel regard vous avez sur l'anthologiste?
Alors moi, c'est hyper fastoche. Moi, j'ai aucun problème. Le seul problème de Serge, c'est qu'il comprend non seulement le texte, mais en plus l'auteur. Donc moi, il m'a fait une psychanalyse à froid, comme ça. Et il m'a dit, toi, tu es une, je ne vous dirai pas quoi, refoulée, jamais j'avouerai, quoi. Et d'ailleurs, je lui ai dit... voilà. Et il y a une compréhension du texte et de la personnalité de l'auteur par Serge qui est extrêmement dérangeante. Mais sinon, c'est un vrai bonheur. C'est absolument pas quelqu'un qui impose. Il dit, écoute, tu trouves pas que ça serait mieux si... Et effectivement, c'est mieux, donc il n'y a pas de raison de se retenir.
Oui, ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans cette anthologie, après l'avoir lu et relu plusieurs fois, c'est vraiment l'extraordinaire diversité de personnalités, et finalement on se rend compte aussi d'une approche complète et d'un rapprochement entre science-fiction et littérature générale. On peut dire que même d'un certain point de vue, cette anthologie est une espèce de suppositoire dans le cul de la littérature générale, parce qu'elle est une espèce de boost le reste.
Suppositoire dans le cul de la littérature générale. Il y a une question. Tout de suite, du coup.
Merci, bonjour. Moi, je voudrais parler de la préface.
On va y aller, nous.
Qui est un véritable scandale.
On va y aller.
Non, je voulais poser la question à Serge. Est-ce que ta conception de l'ASF était antérieure à la lecture des textes et à la constitution du recueil, ou est-ce qu'elle en découle quelque part ?
Non, elle était antérieure puisque c'est un chantier que j'ai critique personnel que j'ai ouvert en 2004-2005. En fait, je suis toujours un peu embarrassé pour parler de ça, mais pas pour les raisons, pas parce que ça suscite des polémiques ou des débats qui sont d'ailleurs assez marrants sur les forums. C'est plutôt parce que c'est un work in progress, donc j'ai pas de conclusion unanime à proposer. Je suis pas capable de condenser en deux phrases. Je suis pas capable de pitcher mon propre propos, quoi. Je suis encore d'autant plus embarrassé d'en parler que c'est assez impur comme recherche. J'explique pourquoi. C'est que pendant les années 90, il y a eu une espèce de cycle à la fois de production personnelle, à la fois littéraire et critique, et aussi de beaucoup de production éditoriale, puisque comme l'a rappelé Philippe, il a vu le début de ce processus, mais moi quand j'ai commencé à écrire en 90, c'était la fin. Il n'y avait absolument plus rien en France pour publier de la science-fiction. Pour commencer à écrire, je veux dire, à part Le Fleuve Noir. Voilà. Il n'y avait plus de revues, il n'y avait plus d'anthologies, il y avait quelques fanzines, mais c'était vraiment extrêmement difficile. Il n'y avait aucun endroit où on pouvait faire ses classes, apprendre à écrire, apprendre à construire une histoire et progresser, sauf au Fleuve Noir qui exerçait sur les auteurs une contrainte d'un autre ordre. Mais qui ne nous faisait pas progresser, puisqu'on n'avait pas réellement de dialogue éditorial avec l'éditeur, qui par ailleurs était absolument charmante. Et donc, une partie de mon activité à l'époque a consisté à la fois à essayer avec d'autres de reconstruire des outils éditoriaux, de reprendre certaines habitudes, dont celle de faire des anthologies, entre autres, et d'autre part, à essayer d'élargir le public de l'ASF, le public des collections, en essayant d'identifier les malentendus, puisqu'il était de toute évidence qu'il y avait de gros malentendus dans la perception de l'ASF en France. Quand on voyait la façon dont était utilisé le mot SF, science-fiction, dans la plupart des médias comme synonyme de ridicule ou de grotesque, c'était évidemment assez embarrassant ensuite de revenir en disant « j'écris de la science-fiction ». Moi, je me souviens quand je disais au départ « j'écris de la science-fiction », on me disait « mais vous n'écrivez pas des romans alors ?» Bon, donc c'était très, très ennuyeux. Et bon, dans les différents points que j'ai, qui m'avaient semblé des points de conflit comme ça dans la relation entre la SF d'un côté et la culture ambiante, on va dire, de l'autre, il y avait de telles anomalies, c'est-à-dire de tels degrés de violence dans le rejet, de tels dénis, qu'à un moment j'ai eu l'impression que la liste habituelle des arguments qui était de dire au fond la culture française n'a pas de place, ne fait pas de place à la science, pour elle la science et la technique sont des matières non littéraires, donc il y a une espèce d'incompatibilité générale à dire je fais de la science-fiction donc je fais de la littérature, le donc n'était pas du tout évident pour la plupart des gens. Il y avait un côté c'est une littérature américaine, donc vous êtes en fait des imitateurs, vous vous inscrivez dans une tradition qui n'est pas la nôtre, chose qui m'a conduit à essayer de réhabiliter la vieille SF française en disant mais attendez, on a eu ce patrimoine, simplement il a été complètement refoulé pour des raisons qui sont d'ailleurs assez énigmatiques, etc., etc. Et pour finir, ça m'a paru être un point important, c'est en tombant un jour dans la préface d'une anthologie du livre de poche qui s'appelle Histoire divine, il y a une préface de Gérard Klein où il souligne que, au fond, la littérature, la SF a une de ses caractéristiques, c'est qu'elle a été la seule littérature au XXe siècle à montrer des dieux en action, voire Dieu lui-même, alors que dans la plupart, enfin, dans la littérature générale, c'est une chose qui n'est absolument pas visible du tout au XXe siècle, contrairement au XIXe où ça existe encore. Et j'ai mis ça en rapport avec un certain nombre de choses que je maîtrise par ailleurs, comme la fin de la métaphysique classique au début du XXe siècle, à la suite de l'invention de la psychanalyse, du triomphe de la linguistique. Ça m'a paru être une pièce de plus à verser au dossier du problème, de la confusion, du malentendu, l'accusation, disons, de faire une littérature infantile, c'est-à-dire une littérature qui aime les très grandes choses, les gros vaisseaux, les grands monstres. Et je me suis dit, oui, mais non, le colossal, l'immense, l'infini, le monstrueux, ce ne sont pas des choses infantiles particulièrement, c'est une partie des objets qu'on traite dans le cadre de la métaphysique. Donc, j'ai ajouté, et c'est la réponse à la question, dans cette préface, j'ai insisté sur cet aspect-là des choses, plutôt que d'insister une énième fois sur les problèmes de réception de la culture scientifique en France, etc. J'ai suggéré de regarder à cet endroit, c'est-à-dire de dire... Le malentendu vient aussi peut-être du fait que ça a été pendant un siècle le seul endroit de la culture occidentale où on a continué à faire de la métaphysique, alors que partout ailleurs on considérait que la question était réglée. Voilà. Il se trouve qu'effectivement c'est une suggestion qui provoque des débats, mais après tout c'est le but.
Xavier Mouméjean.
J'ai une sorte de révélation en découvrant l'accueil de l'anthologie. Il y a une sorte de lecture moudjahidine de Lanto qui est, c'est de la SF, ça s'en est pas, avec des critères qui m'échappent encore. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a un épistémologue qui s'appelle Gerald Holton qui avait distingué la science publique de la science privée. La science privée, le premier état de la science, c'est celui qui se passe chez le scientifique et donc qui est un mélange d'éléments totalement subjectifs, un peu comme Gödel qui croyait aux anges ou Newton qui était thaumaturge, etc. Ça, c'est la soupe qui se passe chez le scientifique et qui est privée. Puis, il y a la réception des découvertes scientifiques par la communauté scientifique qui est obligée, dans la mesure où ça doit être objectif, d'éliminer toute la partie subjective. Et par exemple, le théorème de Gödel apparaît comme un théorème logique coupé complètement de son délire clinique qui est de croire à des anges, etc. Et j'ai l'impression, mais c'est jeté comme ça, ça demanderait peut-être à être théorisé ou carrément oublié, que la science-fiction française en ce moment a complètement coupé les ponts avec la science publique, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à une science objective, mais on a décidé d'éliminer le tamis scientifique, le tamis de la réception collective, et de présenter la première étape de la science, en fait, qui est la science privée, ou celle où un théorème logique peut côtoyer des peaux d'ange, comme dit Gödel, et où, effectivement, la métaphysique, allez, le mot est lâché, l'anthologie ou l'ontologie est encore mélangée à des concepts logiques. Je crois, voilà. Et c'est Serge Kefrobard. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on est arrivé à un état français actuel où le travail d'objectivation de la science pour enfin reconnaître « oui, c'est de la science-fiction » a été éliminé. On est revenu à un état antérieur où on peut assumer et affirmer qu'il s'agit de science-fiction alors qu'il y a, il y a Dieu, où il y a des anges, où il y a la matière brute.
Alors, est-ce qu'il y a encore une petite question, une réaction ? Jean-Claude.
En t'écoutant, il y a effectivement un parallèle à faire, par exemple, avec ce qu'est la musique, puisqu'on a eu toute une série de gens qui ont défriché tout un domaine, les gens qui étaient ce qu'on appelait la musique, entre guillemets, classique mais moderne, c'est-à-dire les Boulez, les Nono, etc., tous les travaux de l'IRCAM, par exemple, sur le travail de retour aux fondamentaux. La musique, c'est avant tout du son, donc on travaille avec un matériau sonore. On assimile à l'intérieur d'une œuvre musicale tout un ensemble de sons qui ne sont pas des sons joués, mais qui sont des sons entendus, enregistrés et à la limite produits. Ça a donné le concerto pour une porte à un soupir de Léon d'Henri, enfin, des choses de ce genre. Mais c'est quelque chose qui, le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas du tout été grand public. C'est resté limité, comme l'art moderne le plus extrémiste, limité à un tout petit nombre de gens. Mais dans les années 80, sont arrivés un certain nombre de moyens techniques, l'ordinateur individuel, etc., qui ont permis aux gens chez eux de faire le même genre de cuisine, c'est-à-dire de s'amuser à enregistrer plein de machins et de jouer avec ça. Et là, par contre, on a vu arriver des choses qui étaient le trip-hop, qui étaient tout le drum and bass, c'est-à-dire des gens qui, chez eux, mélangeaient des machins et des trucs dont on leur avait pas dit que c'était pas normal de le mettre dans la musique, donc ils le faisaient. Et il y a eu à peu près la même chose dans tout un tas de formes d'art. La musique a peut-être précédé d'une dizaine d'années, mais on s'est mis à dire qu'après tout, il n'y a pas de raison particulière objective de ne pas rajouter une pincée de ci ou une pincée de ça. C'est arrivé en cuisine, on met facilement du piment d'Espelette dans le chocolat ou du poivre sur les fraises. On le fait en science-fiction en ajoutant un peu de ceci, du guacamole au milieu d'un certain nombre de nouvelles, ou du sexe fisté quand on en a le besoin. Et donc, ou les deux, d'ailleurs. Et donc, le travail consistant à dire on n'a plus une rigueur, un respect de pureté, un respect d'une espèce de charte de choses qui se font et qui ne se font pas. On est dans le mal élevé total, on est dans le jouissif, on est dans le David Calvo dont on n'a pas encore parlé, qui s'offre cette espèce de départ en vrille, sauf que David Calvo est quelqu'un qui est capable de partir en apesanteur, de vous faire un triple salto et de retomber sur l'extrémité du petit doigt en disant « et voilà ». Et il n'y a que David Calvo qui sait le faire, on est tous très jaloux. Mais rien que pour ça, il y a trois pages de poèmes en prose où vous avez une magnifique trajectoire dont on ne rime, enfin, qui ne rime absolument à rien et qui est une merveille. Voilà, parce que la trajectoire est belle. Et donc, on a maintenant ce travail d'art, et la science-fiction l'a récupéré, j'en suis heureux, dans lequel bon, on prend, on pioche, et on fait des amalgames et des accouplements contre nature, et c'est vachement marrant.
Catherine ?
Oui, je voulais parler
trois minutes.
Oui, trois minutes, mais justement, il y en a trois pages. Il y en a un autre texte, c'est celui de Roëlan, qui est juste monstrueux. Et en fait, moi, ma conviction, c'est que la science-fiction, c'est poser la caméra là où, logiquement, l'être humain ne peut pas aller. Donc, que ce soit chez les anges, ou dans l'avenir, ou dans un vaisseau spatial, ou au cœur d'une naine blanche. Et là, Roland pose sa caméra dans la psyché de quelqu'un qui est à l'agonie. En plus, l'agonie est très pénible. Et c'est très gonflé de faire ce genre de texte. Et c'est en ça où la science-fiction, quelquefois... reçoit tous les textes dont on ne veut pas ailleurs, et notamment ce face-à-face avec la mort qui est parfaitement anxiogène. Donc pour ne pas plaire, ne pas vendre et ne pas être publié, c'est exactement le genre de texte qu'il faut écrire. C'est peut-être pour ça qu'il est indispensable de le publier au moins une fois. Mais c'est un texte absolument glaçant. Et bon, les gens qui ont plus de courage de moi disent « Mais pourquoi as-tu peur ? Car ça t'arrivera à toi aussi. » Et ça ne fait pas du tout envie. Moi, j'ai commandé une mort rapide et indolore. Mais ça fait vraiment partie de ces textes. On se dit « En quoi est-ce que c'est science-fictif ?» C'est science-fictif au sens où on plante la caméra à un endroit où personne n'a pensé ou a osé ou a eu envie de la poser un jour.
Alors, on va s'arrêter là, on va les remercier. Ils sont tous en dédicace, tout de suite, maintenant, à la librairie, avec Pierre Christin, Yann McDonald, Alpha Coury, David Klass, Minéas Marfield. Tout de suite, ici, il y a un hommage à Ballard. À côté, il y a une conférence sur l'humain et après. Et en ce moment, il y a une lecture à l'espace SNCF, notamment de l'anthologie 69. Merci à tous.